La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'épingle, le podcast. Avec Greg, Pag et Jean-Max. Le podcast sur la course automobile. Une présentation de la commission athlétique.
Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de l'épingle. D'abord, avant de saluer mes deux co-animateurs, on tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel, pour tout l'équipement technologique du studio de la commission athlétique, ainsi que le complexe JC Perrault pour tous les meubles et divans très confortables dans lesquels nous sommes assis, messieurs. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe JC Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des deux glaces à Saint-Roch de Lachigan. Messieurs, Pierre-Alexandre Girard, Jean-Maxime Sans Souci, comment allez-vous?
Salut Greg, ça va bien toi aussi?
Et boy, très bien.
Même. Écoute, ça va très bien. Écoute, une autre course, ma foi, hautement spectaculaire ce week-end. Va falloir vraiment faire la différence. Je crois qu'on va séparer nos épisodes en deux, messieurs. Ce qui se passe sur la course, sur la piste, c'est-à-dire, et à l'extérieur. Parce que ce sont deux mondes qui sont complètement différents. C'est un circuit qui est très rapide en fin de semaine, celui de l'Arabie Saoudite, ce qu'on a vu. 80% du temps, les pilotes ont le pied dans le fond. Et c'est là qu'on a vu que quand on a le pied dans le fond, Red Bull sont intouchables. Un autre performance impériale de Max, qui, dans ses temps libres, j'ai vu ça passer, j'ai trouvé ça tellement drôle. Saviez-vous qu'à 4h du matin, avant le Grand Prix, lui, il était en train de faire des courses sur son simulateur, en train de faire du e-race. Donc, c'est maintenant un professionnel du e-racing qui, dans ses temps libres, s'en va gagner des championnats du monde en F1. C'est à peu près ça qui se passe, là.
C'est assez incroyable. C'est soit il course, soit il est en simulateur. Ultra pro, c'est un nerd. T'sais, je pense qu'il se surpasse à chaque Grand Prix. Ça paraît, il travaille fort. Un peu comme un Crosby qui lançait dans la sécheuse, dans ses temps libres, dans le sous-sol, des rondelles. Lui, il est tout le temps sur le simulateur. Il veut être le plus performant possible. Clairement, ça fonctionne.
Ben, il fait partie d'une équipe de sim racing, Max. Puis, ils font des championnats comme les 24 heures du Mans. Fait que pendant 24 heures, ils vont faire des courses à relais où est-ce que pilote après pilote se connecte à la session et vont faire des courses. Puis dans là, iRacing, ils ont fait une nouvelle mise à jour où est-ce qu'ils ont ajouté de la pluie. Fait que c'est pour ça que les enthousiastes de Sim Racing, ils sont vraiment contents de pouvoir essayer le jeu, surtout en fin de semaine. C'est pour ça, je pense, qu'il a dormi aux petites heures parce que c'est une nouvelle mise à jour que le jeu a donnée qui, pour une fois, t'as le droit à de la pluie. Ça a l'air anodin, mais simuler des pneus dans de la pluie à l'ordinateur, c'est extrêmement difficile pour rendre ça proche
réaliste.
À la vraie vie. Ouais, réaliste. Alors, c'est pour ça que des enthousiastes comme Max trippent à fond.
Mais c'est quand même fou de savoir que, oui, même si le Grand Prix est de soir, puis ils doivent se lever très tard pour s'ajuster à l'horaire. C'est comme ça pour tous les Grands Prix qu'on dit de nuit, si on veut, là. Mais c'est fou de savoir que les pilotes qui prennent un soin jaloux de leur... ont des préparateurs physiques avec eux. Tout ce qui est mangé, chaque exercice physique, le sommeil, tout est calculé dans leur cas pour être capable de piquer au bon moment, pour être capable de performer à la course. Et lui, Max, à 4h du matin, est encore là. On avait vu Lewis l'an dernier documenter ça à Vegas en disant « Bon, pour courir aussi tard, ça n'a pas d'allure. Il faut passer presque 24 heures debout pour se coucher comme à 5h du matin. » Mais là, c'était pas le cas du tout en Arabie Saoudite. Là, on n'était pas aussi loin que ça dans l'horaire. Lui, il dit « Non, moi, ça me dérange pas. J'embarque quand même dans ma voiture. » Et je suis même pas inquiété.
Oui, même pas une seconde.
Nullement inquiété.
Ouais. C'est impressionnant à quel point ces gars-là travaillent fort. On se rend pas compte, tu sais, on pense que les gars, ils font juste de la course et tout ça, mais les gars font des exercices de cou. Vous avez sûrement déjà vu ça pour renforcer le cou, pour être solide. Ils doivent être hydratés, ils doivent manger parfaitement. C'est des vrais athlètes. Je pense que les gens sous-estiment cet aspect-là des pilotes.
Ça me fait penser, tu parles du cou, puis là, je veux pas aller trop loin dans nos points. Mais Ollie Bearman, son headrest, je ne sais pas si vous avez vu les photos après la course, mais il y avait un côté du headrest qui était complètement défoncé. Ouais. Il était complètement fâché parce qu'il n'avait pas encore eu la force physique dans le coup, il n'avait pas eu l'entraînement nécessaire.
Le casque.
Oui, fait que le casque pendant la course, puis comme il disait, quand Lewis est venu le féliciter après la course, il s'est levé de la voiture, puis il titubait, il était complètement
étourdi. Tombé dans les bras de Lewis, finalement. Ouais. C'est drôle, la première question. Et puis, ta première course, je suis... explosé, je suis brûlé, c'est ce qu'il a répondu. Très bien fait, Ollie Bearman. Impressionnant, je pense. Même les fans de F1, pas grand monde qui, avant, en fin de semaine, pouvait parler de lui ou savoir qui il était. Puis ça ramène, je pense, le débat de dire, est-ce que de rajouter une écurie ou deux, on va diluer le produit.
L'événement Troc en Stock est de retour uniquement chez le numéro 1 au Canada, GM Paillé. Plus de 1450 modèles en stock. Pour les meilleures offres, GM Paillé, c'est le plus grand centre du camion au Canada. L'événement Troc en Stock, c'est bien des trocs maintenant. OK, OK, Paillé, Paillé.
Tu sais, de diluer le talent des pilotes sur la piste, à mon avis, je ne crois pas. Tu sais, il y a des cartes cachées comme ça. Bearman, à 18 ans, troisième plus jeune pilote de l'histoire à faire ses débuts en Formule 1. De surcroît, le fait avec Ferrari. Je veux dire, c'est quand même pas rien, là. Et il s'en va chercher des points. Il reste de... On voyait son stress, sa nervosité en fin de course, là. combien loin Lewis est derrière moi, je veux savoir. Ça doit être tout un feeling pour un kid de 18 ans d'arriver à dire « Where is Hamilton behind? » c'est quoi le gap, là?
Il y avait deux autres Anglais, ses compatriotes en arrière, Norris et Hamilton. T'sais... Imagine le gars, il commence, il vient de faire la pole en F2 la veille. Là, il est dans une Formule 1, puis t'as ces deux héros probablement en arrière de lui qui le rattrapent. Finalement, son directeur de course lui dit « We can do it, lâche pas, continue. » Et là, Bearman qui dit « Les derniers laps, là, c'était des flying laps comme en qualif, tour après tour, sans arrêt. » Fait qu'imaginez la pression. Il faut tellement que tu sois sharp mentalement pour pas te crasher dans le mur. À cet âge-là, il a l'air d'un enfant. Avez-vous vu sa petite peau de bébé? C'est incroyable. Puis obtient vraiment, c'est le pilote du jour. Parfaite course dans les circonstances.
Oui, ta première course, vraiment... tu finis septième devant Norris, devant Hamilton. Ben oui. Tu vas chercher Driver of the Day. Donc ce sont les fans qui ont voté pour toi. Je veux dire, ça, c'est une entrée en matière parfaite. Là. Ça, c'est à la Ryan Poehling. On lui souhaite une meilleure, un meilleur dénouement. Là. Bien sûr que Ryan Poehling, qui joue sa quatrième ligne à Philadelphie présentement.
Risque de finir chez Haas, fait que ça va peut-être être la quatrième ligne aussi.
Non, mais Haas qui... Ouais. On va en parler tantôt, là, mais Haas qui sont pas mauvais. Surprenant.
Ouais.
J'aurais aimé ça voir ce qu'on aurait pu faire avec Gunther qui serait encore là. Les gars, avant qu'on décortique la performance de plusieurs pilotes, qu'on ait nos héros du week-end, avez-vous vu ce dépassement de Max sur Lando? Lando qui était encore en pneu médium et Max qui arrive avec le... Cette voiture-là, je sais qu'on en a parlé la saison dernière, mais là, on est dans une nouvelle formule. Alors, ramenons le sujet. Puis le deuxième épisode avec une domination comme ça de Red Bull, je pense que c'est la bonne façon de le ramener. Le DRS, là.
Ah non, pas encore!
Est-ce que c'est le problème en F1 présentement? Selon moi, là, pas de DRS... on aurait eu une course, ou un temps soit peu, un peu plus de course, mais aussitôt que les DRS s'ouvrent, la Red Bull, 33 km/h de plus en vitesse de pointe pour Max devant Lando, et ça, c'est uniquement causé à l'aspiration du DRS, le dépasse comme si c'était... C'est pas l'an dernier, lorsque la Mercedes avançait pas pantoute, là. C'est la McLaren qui était devant, qui avait beaucoup de rythme ce week-end, qu'on parlait, que c'était un circuit qui était bon pour les McLaren. On a vu qu'ils ont quand même bien fait. Vous en pensez quoi, les gars?
Ben, on en parlait la semaine dernière.
Trop brièvement, d'ailleurs.
Ouais.
Pas assez pour ouvrir la porte et avoir ce débat-là. Mais là, on a le temps, on va le faire.
On est peut-être rendu là à se poser cette question-là parce que faut juste se rappeler à pourquoi est-ce que le DRS il a été mis en place. Puis c'était dans d'anciennes réglementations, finalement, qu'on avait besoin de faire ça quand les voitures n'étaient pas capables de se suivre très proches. Maintenant, avec les nouvelles réglementations, elles sont capables de se suivre. Alors, l'utilité du DRS est beaucoup amoindrie, même s'il y a encore beaucoup de turbulences entre les voitures. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Puis là, dans un avantage aussi incroyable, c'est vraiment ridicule. Je continue de penser qu'il faudrait sûrement réduire les zones de pouvoir utiliser le DRS parce que 33 km/h, c'est absolument ridicule. Là.
Mais non, ça n'a aucun bon sens. Et Adrian Newey a utilisé le maximum de ce système-là. Ça veut dire que même présentement, si les autres voitures étaient proches de la Red Bull, on ne serait pas capable d'y toucher 33 km à l'heure. Roule à 100 sur l'autoroute, quelqu'un passe à côté de toi à 133, là. Imagine maintenant, tu es en Formule 1. Ça n'a absolument aucun bon sens. Puis ça cause aussi, Jean-Max, avant que tu donnes ton opinion, ce que tu as amené la semaine passée, Pag, avec les trains de DRS. Je veux dire, ça nous a enlevé des dépassements en fin de semaine. Tu sais, toute la course qui se joue entre la 9e et 13e position, ou à peu près, là, dépendamment des tours ou quoi que ce soit, des pilotes. Mais selon moi, ça nous a privés d'une bonne course. Encore meilleure. C'est tout le temps des bonnes courses. Là. C'est le fun à regarder pour nous autres parce qu'on se trouve des bonnes raisons de les regarder. Puis c'est ce qu'on tente de faire ici dans l'épingle. Mais selon moi, ça fait seulement ennuire.
Écoute, je continue à dire que j'aime bien l'idée du DRS. Le fait qu'on devance ça de un tour. Là, on se rappelle, l'année passée, c'était après deux tours, les deux premiers tours complétés, on pouvait avoir accès au DRS. Maintenant, c'est après un seul tour. Je trouve ça le fun parce que en deux tours, tu as quand même le temps d'aller... Tu as quand même le temps de te forger une avance de plus qu'une seconde. Tandis qu'à un tour, tu as moins le temps. Donc, ça garde les pilotes très proches l'un de l'autre, ce qui permet plus de dépassement. L'histoire, c'est que à Jeddah, c'est difficile de dépasser. Fait que même si tu avais des DRS, on l'a vu, Piastri contre Hamilton, il ne réussissait pas à le dépasser pour plusieurs raisons.
Oui, mais Lewis a joué le ministère de la Défense pas mal. Peut-être qu'il a utilisé l'inexpérience d'Oscar Piastri avec deux voitures qui sont quand même similaires.
C'est en plein ça, puis je voulais aller justement là. C'était Lewis aussi, puis c'est Piastri aussi qui est comme pas encore un vétéran. Là. Fait que bonne chance pour dépasser Lewis. Par contre, c'est vrai qu'à l'époque, Prost, Lauda, Senna et tout ça, il n'y en avait pas. Puis lorsque les voitures se rattrapaient, ils se rattrapaient, puis là, tu avais juste le goût qu'ils rattrapent pour que finalement, il dépasse. Puis c'était bien plus difficile de dépasser dans le temps. Fait que ça amenait des dépassements spectaculaires. Puis c'était... Oui, vous avez raison sur ce point-là. Est-ce que ça pourrait être différent si on n'avait pas de DRS? En ce moment, oui. Par contre, ce sont les règles en place. Puis il faut que les ingénieurs et les écuries puissent...
Oui, mais on sait que la FIA n'a jamais eu peur de modifier les règles pour augmenter le spectacle. Oui,
absolument.
Et ou de faire de l'ingérence. C'est ce qu'on a parlé. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 1, allez-y. On parle largement du cas de Mohamed Ben Sulayem, de qui on n'a pas eu de nouvelles d'ailleurs dans tout ça. Il va être rencontré, voir des investigations, et on n'a pas eu de nouvelles. Contrairement à l'histoire chez Red Bull, à laquelle on va arriver dans quelques instants, juste avant de vous dire que notre présentateur Paillé vous rappelle que l'événement Troc en stock, c'est bien des trocs maintenant. Profitez du plus grand inventaire jusqu'au 30 avril prochain, messieurs.
OK.
Paillé. Excellent. On devrait nous engager pour faire des pubs. Ah, mais c'est exactement ça qu'on vient de faire.
Juste pour compléter sur le point de DRS, le problème aussi, c'est que Red Bull, ils savent tellement qu'ils sont performants avec le DRS qu'ils se permettent des réglages qui leur donnent plus d'appui aérodynamique pour être plus performants en course, alors que d'autres voitures vont essayer d'être plus performants en qualification pour se classer plus haut dans la grille. Eux, ils n'ont même pas besoin de faire ça parce qu'ils savent que de toute façon, même si Charles réussit à avoir la pole, leur DRS est tellement puissant qu'ils vont être...
Mais c'est ce que je dis. Présentement, pour battre Red Bull, tu n'as pas besoin d'être égal à la voiture. Tu as besoin d'être une demi-seconde plus rapide qu'eux autres pour les faire échapper au DRS lorsqu'ils sauvent. C'est complètement capoté en ce moment. Et oui, c'est là, vous allez me dire, okay, j'entends les auditeurs dire, on sait, il est contre Red Bull. Il est... Non, mais je veux dire, c'est pas la première fois où est-ce qu'on a fait des changements de règlement pour augmenter le spectacle et prévenir. Le party mode là, chez Mercedes, on t'a réglé ça assez vite là, et on a enlevé ça. Et on a changé des règlements de multiples fois pour tenter de freiner une écurie. Alors cette fois-ci, je veux dire, on les laisse dominer, mais je crois que si on a une autre saison comme l'an dernier, déjà des fans la semaine passée qui disaient « Bon, ben à l'année prochaine. » Et moi, j'ai trouvé ça dommage de lire ça. Ça me fait de la peine en même temps parce que un amoureux de ce sport, tu sais, comme vous autres, les gars, on est les trois des amants de Formule 1. Et là, après la deuxième course, pas obligé de vous dire que j'ai pas grand espoir de voir qu'un autre écurie va rattraper Red Bull de sitôt. Là. Peut-être après la pause estivale. Mais d'ici là, là ça va être le max show encore une fois. Là.
Mais c'est comme... Ouais. Moi, j'essaie d'expliquer à ça... Ça de cette façon-là aux gens, surtout même dans le milieu ici chez BPM, les gens sont comme « Ah, ils montent la liste des 20 derniers pilotes puis ils se donnent comme des 20 derniers vainqueurs en Grand Prix. » Puis c'est comme tout Max Verstappen sauf un que c'est Carlos Sainz. Fait que là, j'essaie de leur expliquer comme un peu comme le Canadien. Le Canadien est en reconstruction, son 5e, 6e avant-dernier dans la Ligue. Mais pourquoi on les regarde? À cause de la reconstruction. Puis en ce moment, il y a beaucoup d'écuries qui sont en reconstruction. Puis c'est pour ça que c'est intéressant de regarder la Formule 1 en ce moment, c'est de voir quelles améliorations sont faites, comment c'est fait, puis aussi les changements de pilotes, comment est-ce que ça va influencer les écuries et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses hyper intéressantes à regarder, puis c'est pas vrai qu'il y a juste le vainqueur de la course qui est intéressant à regarder en Formule 1.
Non, c'est sûr, mais c'est surtout dans le hors-piste, c'est ce qu'on disait, là, de voir qui va s'en aller où la saison prochaine. Et concernant ça, il y a eu des gros développements ce week-end sur la piste aussi. Il y a des pilotes qui jouent à chaque semaine leur futur en Formule 1, à mon humble avis. Mais d'abord, Christian Horner. Au moment où on se parle, Horner est toujours en poste. Et là, depuis la dernière fois où on a enregistré un épisode, les choses ont bougé de façon complètement folle.
Ah, ben oui, c'est vrai.
Là, on a eu l'information comme quoi la plaignante en question a été suspendue par Red Bull.
Oui.
Chose qui est difficile à commenter parce qu'on ne connaît pas la nature de pourquoi.
Premier red flag, quand même. Premier red flag, là.
Mais moi, je suis pas si d'accord.
En 2024, de suspendre une plaignante.
Ben, c'est ce que je. Tu sais, en fait, est-ce que ça aurait été une fausse plainte? Et là, ceux qui nous regardent sur YouTube, je mets des gros guillemets sur ce que je dis. C'est une question que je pose. Après ma barre, on regarde ça et on se dit, c'est pas un bon look, là.
C'est pas un bon look. Excuse-moi, je te coupe parce que je sais que Pag, il va sauter là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Moi, oui, j'aime Red Bull, mais j'essaie d'être neutre là-dedans, puis je vais pas défendre quelqu'un s'il fait quelque chose de tout croche. Ça, c'est sûr que non. Mais là, avec la suite des événements, et là, Red Bull qui suspend la dite plaignante, je me dis... Ils sont plus intelligents que ça. Ils savent que n'importe quoi qu'ils font, ça s'en va sur Twitter.
Je le sais plus, tu sais. Ils sont plus intelligents que ça, honnêtement.
Ils ont des relationnistes qui doivent payer des centaines et des millions par année pour justement gérer ça. Mais tu suspends pas la plaignante si tu es dans le tort à 1000%.
Parce que ça, c'est l'étape 1 de depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, où à peu près j'essaie de tout rassembler. Après, on a eu l'info comme quoi... Christian Horner aurait tenté, avec des intérêts britanniques, de racheter l'écurie Red Bull Racing.
On ne l'a pas dit.
Ce qui aurait été à la base ou ce qui aurait fait partie du conflit en soi avec les Autrichiens chez Red Bull. Là, c'est bien connu maintenant. Les Autrichiens veulent plus de Christian Horner, mais les Thaïs veulent encore de Christian Horner et eux ont 51% de l'écurie. Alors, quand ils votent, ça vaut plus... que le 49 des Autrichiens, voilà.
Puis aussi, ben, ça a été révélé que Christian aurait racheté le silence de la plaignante à
700 000. Et Red Bull aurait mis un petit 300 de plus pour faire 1 million.
S'il n'y a un autre red flag là, je ne sais pas où ce qu'il y en a.
En fait, il y a des gens qui ont dit qu'il a été blanchi. Non, il n'a pas été blanchi. En anglais, on dit « the case has been dismissed
».
Donc, on ne sait pas, je veux dire... où la vérité est dans tout ça. Ce qu'on vous donne, ce sont des faits. La case, donc je sais même pas comment le traduire, je m'en excuse, les gars, vous pouvez peut-être m'aider ici. Quand on dit « dismissed », ça veut dire ça a été tassé à ce moment-là.
Rejeté,
Pas rejeté, là, mais tassé.
Ignoré.
Tassé. ce sont tous des synonymes, mais... C'est ça. C'est là qu'on en est présentement. Alors, Christian Horner, qui lui, envers et contre tous, il a même sorti en disant, parce que là, Ford a commencé à poser des questions, en se disant, nous autres, on s'en va dans ce drame-là, là. On s'en va dans cette tourmente-là. Et même Honda a commencé à poser des questions. Et Christian s'est levé cette semaine en disant, moi, je peux gagner sans tout le monde. Il n'y en a pas de problème.
Donc, ça, c'est la fameuse entrevue qu'il aurait eu avec un journaliste allemand.
Oui. T'sais, les Allemands, ils en sortent des
infos.
Il y a
tellement... Voir que Christian va aller dire « Moi, pas besoin de Newey, pas besoin de Mac, pas besoin de personne. »
Ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y a pas un individuel qui est plus grand que l'équipe.
Voilà.
Mais ça veut tout dire.
Ouais, mais si le journaliste allemand interprète ça d'une autre façon, puis que ça sort sur Twitter, Horner dit qu'il peut gagner seul, come on. Ça ne fait que prouver un peu mon point. C'est qu'on
fait... Il n'a pas dit qu'il peut gagner seul.
Il a dit
qu'il pouvait gagner sans ces gens-là.
C'est qu'il n'y a pas un individuel en parlant même
comme
de lui-même.
Comme Sidney Crosby dirait. Il va dire on peut gagner. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui est plus important que l'autre. C'est un travail d'équipe. C'est impossible que Horner ait dit ça de même aux journalistes allemands. En tout cas,
il y a trop
de rumeurs, trop de oui-dire. Je dis pas qu'Horner n'a rien fait encore, mais on ne le sait pas. Et si on suit tous les petits événements qui s'ajoutent et que là, on voit que Red Bull suspend la dite dame, tu peux pas être coupable à 1000 % puis suspendre une dame. C'est impossible.
Ben, il y a eu d'autres informations qui sont sorties comme quoi la plaignante... puis ça, à mon livre à moi, je vais classer ça de rumeur, mais je veux dire, on a vu que les rumeurs dans ce dossier-là finissent par être persistantes et rester. Là. Je veux dire, à plus ou moins long terme, là. Mais que la dite dame voyait Jos Verstappen.
Oui, c'est ça. J'étais content.
Et que Jos Verstappen voyait les messages que Christian Horner lui envoyait, ce qui aurait été une des causes du conflit. Parlant de Verstappen là-dedans, qui lui est sorti en disant, écoute, on a parlé des rumeurs sur Mercedes, avec Mercedes. Et moi, je me disais, vendredi soir, là, on se parle, on est lundi matin, mais vendredi soir, quand j'ai vu les nouvelles sortir, je me suis dit, c'est fait, Max s'en va chez Mercedes. Parce que Red Bull ont convoqué Helmut Marko en disant on va regarder quel est son futur avec lui. On pense suspendre Helmut Marko de l'écurie. Et Helmut, qui lui se tient toujours debout, a dit moi, j'ai pas de problème du tout. Je vais aller rencontrer. Donc, en Autriche, est allé rencontrer les dirigeants de chez Red Bull pour finalement, le lendemain. Ah, non! Helmut, pas suspendu, va continuer son futur avec nous. Mais pourquoi? Parce que Max est sorti dans les médias et a dit « C'est assez simple, là. Moi, Helmut n'est pas là. Je ne suis plus ici. » C'est comme ça.
Parce que Helmut aurait divulgué les informations. C'est lui qui aurait été à la source des leaks dans les médias.
C'est lui qui aurait envoyé tout ça
partout. Gros tata.
Gros tata.
Non, tu fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Peu importe qui a raison, qui a tort. Règle ça à l'interne. Ça éclabousse tout le monde. Puis ça aurait pu déranger Max puis Sergio.
Mais peut-être qu'il a essayé de régler ça à l'interne. Et là, c'était comme un ultime effort de dire « Personne ne m'écoute ici. »
La cause est plus grande. C'est comme même Jos Verstappen qui va faire son petit jaloux devant les médias qui dit « Horner, que ce soit chez Haas ou Sauber, tu ne peux pas faire ça. » C'est comme si Kent Hughes commence à dire une affaire. Martin Saint-Louis commence à chialer. Le père à Suzuki s'en mêle. Hey, on aurait ça d'une gang de broches à foin.
Non, mais justement...
Yoss, mon cher ami jaloux, arrête d'autre, là. Si vraiment non, mais, il sort
mais
avec
c'est comme
la
si le père d'un joueur... Mais on a vu ça dans la Ligue nationale de hockey. Là. Le père de Lekkonen qui s'en va parler de Rantanen, là, par exemple.
Mais ça a l'air pic-pic pareil.
Ben oui, ça a l'air pic-pic. Mais là, c'est tout le monde dans l'écurie. Puis moi, ma question qui s'en vient par rapport à ça, est-ce qu'on peut vraiment garder tout ce beau monde-là en place pour toute la saison, là? Vous allez me dire qu'on va fonctionner de même?
Je pense que oui. Oliver Mintzlaff a sûrement dit à tout le monde, là, parce qu'il a dit à Helmut Marko, tu restes, mais là, il faut que ça arrête. C'est exactement ça qu'il a dit Marko. Il a dit, j'ai parlé avec Oliver Mintzlaff, il m'a dit, bon, tu restes, mais là, il faut que ça arrête. Exactement, mot pour mot.
Mais là, au moment où on se parle, ils sont en train de rencontrer Christian Horner pour décider de son avenir.
Si
et selon plusieurs
parle,
médias, encore une fois,
c'est Horner.
Effectivement, c'est ce qu'on dit, que Christian Horner, de qui on aurait déjà décidé d'avoir terminé son emploi, ses avocats s'en sont mêlés, il est resté, s'est défendu contre vents et marées, mais là, en ce moment, on est en train de dire, il ne sera pas là au Grand Prix d'Australie. Les gars, y croyez-vous ou non?
Oui, j'y crois. Cette histoire-là, plus trop.
Je sais pas, je suis tanné d'en parler.
On sait pas ce qui se passe en plus en coulisses.
Sois pas tanné, ça, c'est l'affaire la plus excitante de cette
okay,
saison.
Ok, je suis tanné.
Ben oui, j'y crois. Vas-y. Mais j'y crois pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. C'est extrêmement dommageable pour toutes les commanditaires qui sont affichés sur la voiture, pour la réputation de Red Bull, pour la réputation de Christian, de Helmut, et même de tous les actionnaires.
Mais la
souvent,
Formule 1 en général.
Exact. Je veux dire, la Formule 1, la Formule 1 se targue d'être plus inclusive avec les femmes en plus, avec la F1 Academy. Et puis là, du jour au lendemain, Red Bull suspend l'employé qui aurait porté plainte. C'est contre toutes les valeurs qu'on essaie de mettre de l'avant.
Ah, absolument.
Moi, je serais vraiment pas surpris que ça allait
c'est
être plus
fort
loin.
Possible. Et là, les rumeurs les plus croustillantes d'hier, là, c'est que l'employé en question aurait un lien avec le guitariste de U2. Et là, U2, je vous dis, j'ai lu ça. Je sais pas si c'est ça. Et U2 voudrait s'en mêler pour faire une chanson pour promouvoir le droit des femmes. Puis là, en tout cas, ça va vraiment loin. La dite plaignante voudrait sortir publiquement. Donc, si c'est le cas, Moi, je suspendrais effectivement Horner. Là, puis
pour... ben, ce dossier-là est loin d'être réglé. Puis à un certain moment donné, il faut se poser la question. Puis là, je regarde présentement mon Twitter, voir si quelque chose est sorti pour qu'on soit au fait des derniers développements et non.
Ça, c'est dans deux semaines. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer.
Oui, mais les choses peuvent se passer très vite. On l'a vu avec Louis chez Ferrari. Je vais donner cet exemple-là tout le temps d'un revirement à 180 degrés qui s'est fait à l'intérieur de 12 heures. On disait quoi, là?
Qu'on parle suspendu.
Ah, ben, tu sais, Christian Horner dit qu'il peut gagner sans tout le monde. La question qu'on doit se poser, est-ce que Red Bull peut gagner sans Christian Horner aussi?
Ben oui.
Non?
En ce moment? Ah, si Horner, oui, excuse-moi, oui. Pardon. Si Horner reste et tout le monde s'en
j'ai
va.
J'ai des questions.
Non, mais tu sais, si Newey s'en va, Max s'en va, oublie ça, là. Mais si Horner s'en va lui-même, Max peut gagner tout seul, ça c'est sûr, oui.
Ben présentement, surtout que sa relation n'a pas l'air d'être au beau fixe avec Christian Horner. Là. C'est ce qu'on semble voir. Là.
Ça va pas bien. Je pense que Yoss et Horner se sont un peu ostinés en fin de semaine. Par contre, Horner est allé voir Yoss. Il a dit félicitations encore pour la belle victoire. Je pense que tout le monde va essayer d'acheter la paix. Là, puis de penser justement à la cause qui est plus grande que des conflits de jalousie, si tel est le cas. Là, c'est l'écurie. On veut le championnat des constructeurs. Puis on veut que Max gagne le championnat puis que Sergio arrive deuxième. Fait qu'à un moment donné, il faut mettre de l'eau dans notre vin. Par contre...
Faut pas réduire ça à un conflit de jalousie, je m'excuse, Jean-Max, mais...
Ouais, mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes de jeter des bombes dans les médias. C'est ça que je dis.
C'est une guerre de pouvoir.
Les bombes dans les médias, là, maintenant, ce n'est pas bon pour personne.
En tout cas, chapeau, moi, je trouve, aux journalistes aussi qui cuisinent Horner. Je sais pas si vous avez regardé les médias britanniques en fin de semaine ou... Mais
ça,
ils se gênent pas.
Et journalistes qui sont affectés à la couverture de la Formule 1 ont absolument pas de problème à poser les vraies questions. Là. Et c'est pas filtré. C'est pas comme ici, par exemple, où est-ce qu'on prend des gants blancs et on pose.
Non. Il commence la journée.
J'envoie pas de flèche à personne, mais je veux dire, on est très feutré dans nos couvertures médiatiques habituellement pour être critique envers des
joueurs canadiens, mettons.
Ben, je veux pas pointer directement à quelqu'un, là. Mais en Formule 1, eux autres, ça sort, ils posent la question, puis on met pas de gants blancs.
Puis en plus, on dit, on va commencer avec ce qui s'est passé en piste. Alors, ils posent 2-3 questions sur la course. Et ensuite, ils disent, maintenant, passons au hors-piste. Puis là, ils
et ça, mitraillent. Ce sont ceux qui ont les droits. Là. C'est les journalistes de Sky Sports, notamment, qui posent ces questions-là, et de la BBC et les autres. Là.
Je suis content qu'ils fassent ça comme ça. C'est les vraies questions, c'est la vérité. C'est ce qui se passe actuellement. Faut en parler aussi. Mais à un moment donné, ça devient lassant un peu en tout cas.
Lassant pour un fan de Red Bull.
Non, même si c'était Haas, là. Tu sais, mettons, là, honnêtement, que ce soit n'importe qui, là. Oh, chez Sauber, il y a un scandale. Moi, je serais comme, OK, je veux parler de la course, là. Je veux plus parler de ça.
Il n'y aura pas de scandale chez Sauber. Ben, il y a une nouvelle chez Sauber. Finalement, Audi qui aurait décidé d'acheter la totalité de l'écurie qu'on connaît présentement comme steak STAKE et non pas un steak que vous allez vous chercher au restaurant. Steak Sauber qui, je dois dire, ça a complètement pas rapport. Là. La voiture est magnifique.
Oui, vraiment.
Honnêtement, là, c'est rafraîchissant de voir du vert néon de cette façon-là. Le style de Valtteri Bottas est incroyable. Maintenant, ce serait juste le fun que la voiture avance un peu. Ce serait pas mauvais.
Encore Bottas qui a été pris dans le trafic pour les qualifications. Joe Guan Yu, arrêt au puits, mais médiocre vers la fin de la course. Bref, c'est surprenant parce que Haas, c'est comme la sixième meilleure équipe. Sauber tire de la patte. Deux en deux dans les qualifs, les deux pilotes ne vont pas en Q2. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout.
Et chez Alpine, je peux pas m'empêcher de penser à Pierre Gasly, mais y a-t-il un pilote plus malchanceux que lui?
Charles Leclerc.
Non, Charles Leclerc est assis dans une Ferrari. Charles Leclerc est assis dans une Ferrari, ne l'oublions pas, Pierre Gasly. D'ailleurs, les pilotes en fin de semaine qui ont joué leur futur, il y en a qui... tous les yeux vont être braqués sur toutes les courses. Là, on parlait de la semaine dernière de la forte possibilité que Daniel Ricciardo puisse s'en aller chez Red Bull, que Max parte ou non, que Sergio parte. Je pense pas que Sergio va rester là. On verra ce qui peut arriver. Mais Daniel Ricciardo, qui était peut-être le candidat numéro un pour s'en aller là. N'oublions pas qu'il y a le jeune Liam Lawson qui est excessivement, qui avait remplacé Daniel Ricciardo dans sa blessure l'an dernier, qui avait été très, très performant, très prometteur, je peux dire ça, plus que performant dans son AlphaTauri. Daniel Ricciardo qui termine sixième à un tour des meneurs, qui fait un grand... J'étudie sixième.
Oui.
C'est 16e que je voulais dire. À un tour des meneurs et qui spin comme un grand à la fin de la course tout seul. Il s'est nuit là, en fin de semaine.
Ben moi, je trouve que je comprends ce que tu veux dire, puis je comprends aussi que la perception peut sembler de cette façon-là. Mais je pense pas qu'on peut baser notre opinion sur le Grand Prix de Jeddah parce que c'est une configuration de circuit qui est vraiment trop particulière, étant donné aussi son aspect street circuit. Mm-hmm. C'est un circuit trop unique par rapport au calendrier, je pense, pour qu'on puisse baser nos appréciations. C'est comme Sergio Perez. Il est excellent sur ce type de circuit-là. Et puis sur 90% du reste du calendrier, il n'est pas très performant. Alors, puis aussi, ben, sur son spin, je pense que la voiture en tant que telle a des gros problèmes. Tu sais, Daniel fait juste embrasser un petit peu le vibreur, puis sa voiture capote complètement en suivant les répercussions juste du vibreur. Est-ce que ça peut vraiment être considéré comme une faute de pilotage? On peut se poser des questions.
Ben, quasiment rendu à la fin quand t'es 16e. Je veux dire, t'échappes la voiture à un moment donné. Il essayait pas d'avoir le tour le plus rapide. Là.
Non, on peut s'entendre là-dessus. Mais tout ça pour dire que oui, on n'est jamais aussi bon que la dernière course qu'on a faite. Mais moi, je fais juste dire même chose pour Oli Bearman. En ce sens que c'est un... Entendons-nous, sa performance était exceptionnelle, extraordinaire. Ce qu'il a réalisé en fin de semaine, d'avoir survenu à la pression qu'il pouvait obtenir en fin de semaine, c'était vraiment un accomplissement incroyable. Par contre, il a quand même terminé très, très, très loin de Charles Leclerc. Et quand il a fait des essais libres chez Haas, il était plus lent que Nico Hülkenberg. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il s'est assuré un volant en fin de semaine? On peut dire qu'il a vraiment bien fait son travail. Ouais. Mais je pense que la qualité du circuit en fin de semaine est trop unique pour qu'on puisse baser nos appréciations sur ce
très
week-end
bon
uniquement.
Mais d'ailleurs, l'écurie V-Carb, là, Visa Cash App,
exact.
Red Bull.
On peut-tu dire RB?
Parlons-en. J'aime ça, V-Carb.
Visa Cash App.
Je trouve ça intéressant.
Mais tu veux-tu réagir à ça? Ou...
Ben, je trouve que c'est un bon point, honnêtement, parce que là, j'étais comme, ah, Ricardo encore qui est mauvais, je lis des trucs là-dessus, c'est vrai que peut-être que c'est la voiture qui n'est pas extraordinaire actuellement, la configuration, mais une chose est sûre, faut que tu battes Tsunoda. Peu importe, no matter what, faut que tu battes Tsunoda. S'il y a une course au volant chez Red Bull à y avoir, faut que tu battes ton coéquipier.
Mais Yuki qui a terminé 15e juste devant lui. Là. Je pensais que c'était plus haut que ça, mais finalement, non.
Moi aussi, tu as raison.
Mal fini la course, Yuki. Mais ce qui m'amène à ma question.
Oui.
Tu sais, puis on va commencer avec toi, Jean-Max.
L'événement Truck en Stock fait son entrée chez Paillé Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Paillé Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Truck en Stock, c'est ben des trucks maintenant. OK, paillé.
On pensait que cette écurie-là allait être performante cette année. Mm-hmm. On se disait, tu sais, aux essais d'hiver, printemps, peu importe, là, les essais de fin février, dès le début également sur le circuit de Bahreïn, on se disait, tu sais, Daniel Ricciardo qui avait été le premier de la toute première session d'essais libres. Là, c'est décevant de voir ça en fin de semaine. Derrière Haas, derrière les deux Williams, ça regarde pas bien.
Ça regarde pas bien. On n'est jamais à l'abri d'un bon upgrade planifié pour que finalement, boum, on tombe peut-être 7e ou même 6e écurie. Donc, il reste 22 courses. J'ai pas perdu espoir.
Non.
J'aime bien le tandem Tsunoda, évidemment. Oui, je suis un fan de Red Bull, donc j'aime bien l'écurie sœur, si on veut. J'aime surtout le personnage. Je lui souhaite que du bien. Je veux qu'il soit performant. C'est bon pour la Formule 1 quand Ricciardo est performant aussi. Mais ça peut changer encore beaucoup.
Donc, ben oui.
C'est ça. Fait que, comme je voulais juste finir là-dessus, c'est que qu'est-ce qui dit que Ricciardo finira pas 11e en Australie ou même 9e, 10e s'il arrive quelque chose? Et là, soudainement, Ricciardo est le héros du jour. Ça peut changer vite en Formule 1. On peut avoir des upgrades qui vont apporter de la performance. Mais la première chose, par exemple, il faut que tu arrives devant Yuki Tsunoda, point barre.
Oui, mais c'est ça. Mais c'est pour ajouter au point de la spécificité du circuit. C'est qu'en plus, la semaine dernière, les écuries avaient fait 3 jours d'essai libres sur le même circuit. Alors, les gens avaient vraiment eu le temps de tout essayer, les modifications disponibles à leur voiture. Et on n'avait pas encore eu le temps de tester la voiture sur des configurations différentes. Puis la particularité de Jeddah est telle que je pense pas qu'on peut baser notre jugement seulement après que deux Grands Prix. Donc là, dans les courses qui vont s'en venir, c'est là que ça va vraiment commencer à être intéressant parce qu'en plus, on a deux semaines de pause. Alors, on va pouvoir commencer à regarder ça un petit peu plus à 10 000 pieds dans les airs, de voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis apporter les ajustements pour toutes les voitures du circuit. Donc,
ouais, Daniel Ricciardo, c'est son Grand Prix à la maison aussi.
Exact.
Donc, on peut s'attendre à une belle performance de sa part. Un autre dont il faut parler, qui lui aussi est sous la loupe, c'est Lance Stroll.
Ça se peut pas.
Commence à manquer de raison pour défendre Lance, là.
Ouais.
Tu sais, je suis allé voir le Rocket vendredi. Il y a un auditeur qui est venu nous voir. On était, moi, Max Lalonde, Anthony Marcotte. Et il me pose des... Première question qu'il me pose, c'est sur Lance, tu sais. Ça commence à être difficile de le défendre. La Aston Martin est décevante. Non, elle n'est pas performante cette année. On se serait attendu à une meilleure performance de ça. Mais Alonso a quand même terminé dans le top 5 en fin de semaine. Oui, c'est un double champion du monde qui sait bien à cette voiture-là. Mais Lance, qui accroche le mur tout seul, d'ailleurs, ça a donné, Jean-Max, tu nous en as parlé hors d'onde, là, le meilleur message radio qu'on a vu en fin de semaine. L'ingénieur qui demande « Peux-tu ramener la voiture? » Non, je suis dans le de mur. et dire en passant, je suis correct. Et les ingénieurs répondent OK, copy. Je veux dire, on lui a même pas posé la question s'il était correct. C'était un gros impact. Là.
C'est parce que...
Un très, très gros impact pour Lance.
Ouais. 275 km/h, je pense, que ça a été enregistré.
Quelque chose comme ça.
Dans le mur.
Ouais, imaginez ça, t'as pas de protéger, là.
Mais c'est que les ingénieurs, tout ce qu'ils font, c'est regarder les datas, là. Évidemment, les écrans d'ordinateur avec les performances, ils voient que la performance est nulle, ils regardent pas voir où Lance, ils disent tu peux-tu continuer, qu'est-ce qui se passe? Hey man, je suis dans le mur. Fait que c'est ça qui s'est passé, ouais. Heureusement, il est correct. C'est une erreur de recrue et Lance n'est plus une recrue.
Non, il est à quoi, sa sixième saison en Formule 1 présentement? 6,
tu
7,
peux plus faire ça, là. Tu as oversteered dans le mur toi-même. Puis il n'y avait personne en arrière qui te mettait de la pression, personne en avant. La piste est sèche. Tout est beau, là. Tu crashes, c'est inacceptable.
Ça, c'est une erreur à la Mick Schumacher l'an dernier qui avait démoli sa voiture complètement. Un accident excessivement violent. Vous vous souvenez, dans les médias, là, même Haas était allé, Gunther notamment, avec son franc-parler, qui était sorti en disant il peut pas continuer à détruire des voitures de même, c'est une erreur de... Je peux pas le dire, là, mais je veux dire, avec le franc-parler de Gunther, mais je veux dire, la question va être une question ouverte qui est la suivante. Comment ça manquait d'arguments pour défendre Lance et pour qu'il puisse garder sa place en Formule 1? Là. Il avait connu une bonne course. En sauvant ses pneus à la fin de la course pendant chercher un point pour l'écurie. Mais encore une fois, tu back ça la semaine suivante avec une telle erreur comme ça.
Argument s'il en est un. Alex Albon a dit après la course, dans son incident avec Kevin Magnussen, qu'il trouvait que c'était un incident de course. Mmh. Alors, il trouvait probablement que la pénalité était trop sévère en disant que le virage dans lequel c'est arrivé, qui est le même que l'incident de Lance Stroll, c'est un virage extrêmement bizarre parce que tu ne vois pas le point de corde. Alors, tu dois juste te fier à ton instinct et donc tu t'imagines le point de corde, il est où? Et puis donc, on peut considérer que Lance a essayé de rentrer dans le point de corde en usant son imagination pour s'enligner dans l'autre, ouais, dans l'autre virage.
Mais tu vois quand même le coin sur lequel tu dois tourner, tu le vois quand même. Même si tu ne vois pas le prochain, tu le vois lui, puis il est rentré à l'intérieur direct.
Oui, ça, c'est drôle qu'Alex Albon dise ça après avoir crié sa radio comme quoi que c'était de la faute à Kevin Magnussen, puis qu'il fallait appeler les stewards, les commissaires et savoir ce qui se passait. Facile après, la pénalité était trop sévère. Mais je veux dire, ce que tu dis là, justement, c'est une erreur de pilotage. C'est pas une erreur de voiture. On parle de Daniel Ricciardo, puis on se dit, bon, la voiture est instable. Il l'a perdu aussitôt qu'il est rentré dans le vibreur. Donc, si ça s'excuse pas, à mon avis, Lance Stroll, ça s'excuse encore moins. Je veux dire, Bearman, qui a une grosse expérience de deux jours dans la voiture, il n'a pas accroché le point de garde, lui, là, dans le mur.
Mais si... OK, je le défends pas, là. Mais juste amener
l'avocat du diable. Non, j'aime ça.
C'est l'avocat du diable, disons-le. Ouais, souvenez-vous du tour de qualification de Max Verstappen à Monaco l'année passée. Dans le dernier virage de la ligne droite, il est rentré dans... ses pneus ont fracassé le muret Exact, pour aller le plus vite possible.
Incroyable.
Donc là, comme je disais, dans un street circuit, un circuit routier que tu essaies d'utiliser le plus que tu peux, de toutes les marges que tu peux aller chercher, tu essaies de les utiliser. Max, lui, il aurait pu aussi, l'année passée, casser sa direction quand tu es allé se fracasser contre le mur. Là, par contre, Lance a été victime de sa propre malchance. Il est allé casser sa direction puis il a été incapable de récupérer ensuite.
La ligne est mince entre la virtuosité et l'erreur. Surtout là-dedans où est-ce qu'on parle de millièmes de seconde, ouais. Là, c'est vraiment ça.
D'où mon point de tout à l'heure, un peu plus tôt. Les gars là sont si fous. Sont tellement rapides, ils roulent tellement vite, la force G est tellement incroyable, c'est de la prise de décision de millièmes de seconde. Mais ça n'excuse pas que Stroll, c'est une erreur, selon moi, impardonnable, tout simplement.
Est-ce que, selon vous, on met Lance au test cette saison pour voir ce qui va arriver avec son futur en Formule 1? Une carrière de 6-7 ans, c'est pas mauvais, là, en partant.
Non, c'est ça. Mais est-ce que son père va...
Surtout après ce qu'il a dit l'an dernier, là. Comme quoi qu'il y avait des intérêts à faire d'autres sports et des trucs comme ça. Il est là cette année. Ce serait bon cette saison, parce qu'on est encore très, très tôt. Il reste toujours bien 22 courses. Là. Ce serait bon de sentir une urgence. Et la seule chose qu'on veut ici, c'est de voir Lance performer. C'est tout. C'est ce qu'on veut. Il n'y a personne ici qui souhaite du mal. Là. Je veux dire, on est très critique parce que c'est un pilote canadien et qu'on a un historique d'un champion du monde en F1 en 97. Mais c'est ça. Ce serait le fun d'avoir un petit peu d'urgence.
Puis ce qui est encore plus décevant dans le cas de l'accident de Lance, c'est qu'ensuite, ça nous a privé d'un potentiel de course et d'un spectacle plus enlevant. Parce qu'à Jeddah, il y a 100% des statistiques de voitures de sécurité. Mais là, Lance l'a causé au tour 9, qui était beaucoup trop tôt. Et puis là, tout le monde, ou presque, est allé chausser des gommes dures pour le reste de la course. Ce qui a fait que tout le monde a dû faire attention à ses pneus pour le reste de la course. Puis je pense que ça nous a vraiment privé d'une lutte et d'un spectacle. En plus de son accident et en plus de nous priver de son talent. Mais juste pour revenir à Lance, déjà, dès la saison dernière, je pense que 100% des pilotes auraient perdu leur volant, t'sais. Là, c'est vraiment juste une question familiale de pourquoi il est là, tu sais.
Oui, effectivement. Et j'ai défendu ce point-là longtemps. Là, je commence à manquer d'arguments pour le défendre. Et c'était mon point de départ. D'ailleurs, parlons des commissaires un peu, puis des pénalités. Moi aussi, j'ai trouvé ça sévère à Kevin Magnussen, un 10 secondes. Il s'est fait donner un autre 10 secondes par la suite. Sinon, je crois que les Haas auraient été en mesure, les deux, de terminer dans les points, ou à tout le moins 10-11, là. Si ça n'avait pas été 20 secondes de pénalité, c'est quand même quelque chose. Là, tu donnes 5 secondes à Red Bull pour quelque chose qui était excessivement dangereux dans les puits aussi.
Ouais.
Celle-là, je ne l'ai pas compris. Juste 5. Et surtout, tu ne donnes pas de pénalité à Lando.
Exact.
Pour un faux départ. Et Sky Sports se posait la question en direct. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Lando lui-même l'a dit. George Russell l'a noté. Tout le monde le savait, mais non, on n'a pas donné de pénalité. Celle-là, je ne l'ai pas compris.
Mais c'est parce qu'on a donné, je pense, un amendement au règlement comme quoi il y a quelque chose qui dit que ta voiture doit être arrêtée lorsque les feux rouges s'éteignent. Donc, étant donné qu'il avait réussi à arrêter sa voiture et n'a pas dépassé la boîte lorsque les feux rouges se sont éteints, il n'y a pas eu de pénalité pour un faux départ.
Clairement dépassé. Mais si c'est ça, ça veut dire que n'importe quel pilote a le droit de stationner sa voiture avec les pneus d'en avant devant la ligne blanche de leur petite boîte. Ouais. Puis t'es légal à ce moment-là. Ou ce qu'on avait vu, c'était Max qui était parti un peu en 45.
C'est pas Alonso,
là.
Justement?
Ouais, c'est Alonso.
C'était Alonso?
Ouais. Ouais. Bon. Ben... C'est pour ça qu'on a rallongé la ligne jaune pour leur donner un repère visuel plus grand parce que ils voient rien, les gars, dans la voiture. Alors, c'est pour ça qu'on a mis une ligne jaune qui dépasse le circuit pour pas qu'ils puissent dépasser la boîte blanche. Mais tout ça pour dire que, oui, on aurait dû pénaliser Lando, mais j'imagine qu'à ce moment-là, on doit se fier justement aux senseurs qui sont dans la voiture et aux repères visuels de la ligne rouge. On se dit, le senseur dit qu'on n'a pas dépassé la ligne, la lumière rouge n'est pas éteinte, donc c'est correct.
Sam Collins, également, le fameux ingénieur avec ses beaux cheveux en microphone, là, qui fait tout le temps d'excellentes analyses. D'ailleurs, allez voir ça sur F1 TV si vous l'avez. Et là, lui aussi, il disait, j'en reviens pas comment les stewards, les arbitres, disons, ont raté ça. Et là, lui, il dit, il est resté dans la démarcation blanche, ça, c'est correct. Puis il dit, la seule façon que je vois que ils ont accepté et qu'il n'y a pas de pénalité, c'est qu'il a comme commencé à bouger, il a arrêté et il est reparti. Exactement comme tu me dis. Fait que c'est le seul, la seule façon pour laquelle il a évité une pénalité, c'est qu'ils ont comme suivi le règlement à la lettre. Lorsque les rouges s'éteignent, il était immobile.
Mais il était devant les lignes blanches.
Ben, Collins semblait dire que non, finalement, il était comme à la limite, en tout cas. Mais tout le monde l'a dit, c'est un jump start. C'est comme, finalement, zéro.
C'est zéro conséquence à ça. 5 secondes pour... Ouais. Tu sais, Red Bull savent ce qu'ils font, là.
Oui, oui.
Les Ferrari qui ont très bien joué le jeu eux autres de leur côté, qui ont laissé passer les voitures, et c'était Berman ou c'était Leclerc.
Leclerc
juste devant Lewis qui l'ont laissé sortir à la fin des puits, mais Red Bull eux agressifs comme jamais ont laissé sortir Sergio Perez devant Alonso, et même Alonso sur la radio a dit waouh, ça c'était dangereux, j'ai failli causer un accident. Imaginez un accident dans les puits, à quel point ça aurait été dangereux là. Alonso a rentre dans, et ça aurait été dangereux pour les gens dans les mécanos. Puits, là, les mécanos qui travaillent là, qui eux étaient tous là parce que c'était un drapeau jaune justement là. Mm-hmm. Donc toutes les écuries étaient sorties, ça ferait à travailler juste 5 secondes versus Magnussen qui était dans un incident de course, oui, a causé une collision, mais qui a eu un 10. Ben, Pag, tu voulais dire?
C'était juste pour dire, incidemment, je pense qu'on va ajuster le règlement parce qu'on a passé maintenant les conséquences en piste de 5 à 10 secondes justement pour essayer de nuire ou de dissuader les pilotes d'effectuer de telles manœuvres. Puis je pense qu'on n'a pas fait ça, on n'a juste pas réfléchi à faire ça conséquemment dans les puits aussi, mais il faut être conséquent, puis je pense que ça va être amendé.
Parce que là, c'était pas le pilote, là. Si Sergio, si Checo se fait dire tu y vas, lui il sort à toute vitesse, puis ça veut dire qu'on a mal jugé ou on a voulu simplement terminer devant Alonso. Là,
moi je pense que la stratégie c'est que, parce que Charles Leclerc a eu un arrêt au puits de 5,3 secondes à cause qu'il a laissé passer, Alonso 8,3 secondes à cause qu'il a voulu laisser passer à cause du trafic, du safety car, on se rappelle. Moi je pense qu'ils se sont dit on veut passer tout de suite, quitte à avoir 5 secondes de pénalité. Anyway, le fait de passer avant tout le monde avec notre rendement avec la Red Bull, on va réussir à être 5 secondes plus vite que Charles Leclerc si on part tout de suite, puis on écopera de la pénalité ensuite. Moi, je me dis que ça se peut que ça soit ça aussi.
Mais si tu fais ça, non seulement tu as le règlement, mais tu mets beaucoup de gens en danger en faisant ça.
Ouais, je le sais.
Je pense que là, moi, c'est là que je débarque. T'sais. Je veux comprendre la stratégie.
Moi, je trouve que ça n'a pas passé. Oui, ça a passé vraiment proche, mais pas si proche que ça.
Que ça a passé proche.
Il y avait de la place.
Je pense qu'il y a bien des gens qui pourraient payer une heure à mon oncle Fernand là, d'avoir joué le jeu. S'il avait été un tant soit peu plus agressif, ça aurait pu mal finir cette histoire-là. Ça, c'est mal lecture.
Ah oui, absolument.
Moi,
mais aussi, imaginez, là, c'est le seul moment de répit qu'un pilote a dans la course. C'est le seul moment que tu peux déclutcher.
C'est 2,3 secondes en moyenne, tu sais.
Fait que t'arrives, t'es obligé d'aller à une certaine vitesse, tu peux comme faire « ouf, je prends un temps de respire, je relaxe un petit peu », mais il était « on », là. Je sais pas si vous regardez la reprise de cet incident-là.
Regardez ça, dès la voiture d'Alonso, là, ça a passé proche, puis pas à peu près.
Il applique sur les freins. Moi, je peux vous dire que je prendrais ça relax dans ma tête en tabarouette.
Les gars, il nous reste juste quelques instants, puis il faut vraiment parler de ce qui se passe chez Mercedes, parce que c'est décevant, depuis le début de la saison, de voir non seulement les performances de George et Lewis qui semblent se battre avec une voiture qui, vous avez entendu le message de Lewis, they're killing us on the straights, et qui se demandait quasiment des mots qui commencent par WTF, et Bono qui lui a répondu copy Lewis, on regarde ça, il n'y a pas de problème. Il semble qu'il y aurait des grosses disparités entre le simulateur chez Mercedes et ce qui se passe en course. Et semble-t-il que c'est un problème qui date pas d'hier. Là. On regarde la voiture dans le simulateur, on se dit « on est performant, voici les vitesses qu'on peut aller chercher, voici nos forces, nos faiblesses, on arrive en piste et ça se traduit pas, mais pas pantoute. » C'est à quelle heure qu'on règle le problème? Qu'est-ce qui se passe chez Mercedes? À chaque fois qu'on pense être compétitif, on se dit « on va commencer la saison du bon pied, Lewis était content de la voiture, George aussi, et là, on n'est pas là, mais pas pantoute. »
Mais c'est curieux parce que c'est depuis les nouvelles réglementations qui ont ce problème-là de simulation. Alors, je comprends pas, comme tu dis, comment ça se fait qu'on réussit pas à amender ces problèmes-là, étant donné qu'on est capable de faire la corrélation entre ce qui a été vécu en piste puis qu'est-ce qu'on peut vivre en simulateur. Les pilotes peuvent facilement aller en simulation après un Grand Prix entre deux courses et de faire ça représente vraiment ce que j'ai vécu en piste. Comprenez-vous ce que je veux dire?
Ouais.
Alors, qu'on ne réussisse pas à ce point-là à amender ces problèmes-là, effectivement, c'est inexplicable pour une écurie aussi performante que Mercedes.
Mais c'est très bon point, j'allais en parler. Toto Wolff le dit, il dit, on le voit dans le force, dans nos données, dans nos data, on le voit, mais en piste, on n'est pas capable d'aller le chercher. Donc, week-end difficile pour sauter là-dessus. Là. Russell qui se qualifie encore devant Hamilton pour une quatrième fois en ligne. Lewis qui doit être découragé et tanné encore et encore. On le voit dans son visage, Lewis. Ça,
même dans la stratégie, direct, là, quand on a mis... Lewis a fait une course remarquable. Honnêtement,
pouvait, là,
de tenir devant Piastri de cette façon-là,
ouais,
d'aller plus rapide même à un certain moment donné que les Ferrari avec des pneus finis, a très, très bien fait. Mais on a encore avantagé George dans la position en le faisant entrer sous le drapeau jaune.
Et
on
n'a
pas fait double stack les deux.
Oui, mais excuse-moi, mais Russell était mieux positionné. C'est comme Piastri, même chose avec Lando. Piastri était mieux positionné que Lando. On a opté pour que le deuxième pilote plus loin ne rentre pas comme avec Hamilton. Je pense pas que c'est comme d'avantager Russell tant que ça. Si ça avait été le contraire, ça aurait été Russell qui n'aurait pas rentré au puits, selon moi.
Ou on a posé la question au pilote, puis on lui dit « Veux-tu rester en piste? » Parce que normalement, à Jeddah, c'est une stratégie d'un arrêt au puits. Alors peut-être que eux autres se sont dit d'être avantagés par la position en piste, c'est une bonne chose à Jeddah, étant donné que c'est un gros train de DRS. Peut-être que comme stratégie.
Ben, Lewis était clairement pas content de ça. On l'a entendu sur la radio. Il aurait pu. Il a dit que c'est une longue course. On a pensé qu'on aurait pu avoir un autre drapeau jaune ou un drapeau rouge. Et c'est là qu'on aurait fait entrer Lewis pour pour probablement des gommes tendres ou d'autres médiums. Parce que, non, il a fini avec des tendres, mais il n'aurait pas pu faire si longtemps que ça parce qu'ils avaient utilisé en qualification. Alors, c'est ça. On va monitorer, on va suivre ça, ce qui se passe chez Mercedes aussi. Au Grand Prix d'Australie, d'ailleurs, messieurs, auquel j'assisterai.
Oh, mon Dieu!
Je ne peux pas vous cacher mon excitation. Oui, live, effectivement. Ça va être assez fabuleux. Donc, on fera ça en studio. On sera partout à travers la planète, d'ailleurs, pour le troisième épisode d'Épingle. Alors, ce qu'on voit ici dans le studio complexe JC Perrault, on n'aura pas le confort de ces divans-là, ce sera peut-être par Zoom. Pag sera ici, lui. Moi, je serai en Australie. Probablement aussi que Jean-Max sera ailleurs sur la planète.
Dans les Alpes!
Dans les Alpes,
mais
oui,
je vais être sûrement à l'aéroport. On va essayer de...
Attends, ben ouais, les boys.
On va essayer de faire quelque chose. on va essayer de faire quelque chose, mais avant de vous laisser, on vous rappelle que si vous cherchez un camion, le meilleur endroit, c'est Payé. Préférez un Dodge, un Jeep, un Ram, un GMC, un Chevrolet, c'est maintenant possible sur payé.ca. Messieurs, Jean-Max, Pag, merci beaucoup pour cet épisode numéro 2. Chers fans de F1, on vous retrouve après le Grand Prix d'Australie pour l'épisode numéro 3 de l'Épingle. Merci d'être avec nous autres. Ça fait grandement plaisir. Abonnez-vous à tout ce qui se passe sur la commission athlétique. Il y a des super bons podcasts qui sont là, en plus de celui de l'Épingle, bien sûr.